Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur Europe 1. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. Jusqu'à 20h, on va parler culture avec vous, Philippe Bandel, mais aussi avec vos chroniqueurs et votre invité.
La demi-heure culturelle de ce 18-20, dont, je le cite comme ça modestement, l'audience ne cesse de monter, y compris dans les dernières livraisons de Médiamétrie. On ne va pas bouder notre plaisir, alors merci à toutes et à tous. Avec Vanessa Zah, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Vous allez nous parler de voyage ou de voyage aujourd'hui ?
De voyage, voyage.
Avec Nicolas Carreau, bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Et une pléiade très mystérieuse. Avec Thierry Geffrotin, bonsoir Thierry.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler de bande dessinée,
ah oui,
de
je vais
BD.
M'y mettre.
Et
ouais.
Pas qu'un peu. Et notre invité, Kian Kojandi, bonsoir.
Comment ça va ?
Ça va très bien. Et certains auditeurs se disent, c'est qui Kian Kojandi ? Réponse, c'est le mec de Bref, le truc qu'on regardait quand on avait 11 ans. Et ça, c'est dans votre spectacle que j'ai vu hier et ça vous met un coup de vieux. Ça s'appelle Une bonne soirée, c'est à l'Européen à Paris jusqu'au 29 juin. Vous avez 36 ans, vous le répétez comme un mantra. Pour quelle raison ? Ah, vous n'attendiez pas à cette question.
Non, je ne m'attendais pas à cette question. Non, mais c'est vrai qu'en fait, 36 ans, c'est l'âge un peu où... Bah, par exemple, je rentre dans une boîte de nuit et je vois qu'il y a des jeunes qui me reconnaissent et je les appelle des jeunes, quoi. Et ça, c'est vraiment le premier pas. C'est
alors qu'avant, vous les appeliez des mecs.
J'appelle des gens comme moi. Et en fait, c'est ça, c'est des jeunes, ça. C'est le premier pas. C'est, voilà, je suis dans l'étape du premier pas. Le mais côté en... genre, ok, ça y est, on y est.
Et en vrai, ça vous met un coup de vieux quand il y a des gens qui disent, je vous ai regardé quand j'avais 11 ans.
Bah ouais, grave. Ouais, ah putain, je te regardais quand j'étais gamin et tout. Je fais, what ? Philippe, vous confirmez ou pas ?
Mais évidemment que je confirme. Mais moi, c'est différent. J'ai 56 ans. Donc, je suis habitué à ce que des gens m'aient vu il y a très longtemps.
Ouais, voilà. Bah, en fait, maintenant, j'ai 36 ans, je peux dire c'était il y a 25 ans. Ça aussi, c'est un truc que je pouvais pas dire avant.
Ah ouais.
Ça, c'était il y a 25 ans.
Ouais.
Tu vois, c'est horrible. Le moment où tu t'en rends compte, t'as une sorte de vertige comme ça, t'as une sorte de falaise qui se crée autour de toi.
Et alors, avant qu'on raconte ce qu'il y a dans le spectacle, ça va même plus loin parce qu'il y a une très courte première partie par un type qui s'appelle Navo, qui est un de vos co-auteurs.
C'est le co-auteur du spectacle,
ouais. Et qui lui-même raconte qu'il a 36 ans.
Ouais. Bah ouais, lui-même, enfin, je vais pas dévoiler son numéro, mais c'est ouais. Ça, quoi. Notre vie, elle change, quoi. On n'est plus.
Ouais.
On a des rendez-vous avec des affineurs de fromage le matin quand on va dans des gîtes. Voilà, c'est...
Ça parle à Geffrotin.
Voilà.
Toi aussi.
Non, mais vous avez plus que 36 ans, les gars.
Non, mais pas pour
Thierry, c'était il y a 30 ans.
Ouais. Bon, Vanessa, sortez.
Sauf que Navo a des cheveux.
Ouais, Navo a des cheveux. J'en ai plus beaucoup, non.
Je me permettrai pas de parler de ça si vous n'en parliez pas vous-même. Mmh. C'est un problème ou c'est pas un problème ?
Non, c'est pas un problème. En fait, c'est marrant, c'est que les gens me le rappellent tous les jours. Donc
ah
à
bon
un moment donné, je me dis, bon, bah, on me définit par rapport à ça, visiblement. Quelqu'un qui est. Est chauve. Et c'est marrant, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a constamment une phrase ou deux par jour ou même par heure, des fois, sur le fait que je suis chauve. Ça fascine, c'est une fascination chez les gens, j'ai l'impression.
En même temps, quand on fait du stand-up, ce que vous faites, Kian Kojandi, on raconte sa vie.
Ouais,
donc il est absolument normal que vous parliez de vous et qu'on remarque ces choses-là. Le spectacle s'appelle Une bonne soirée. C'est une mise en abîme parfaite, car vous racontez une bonne soirée. Et on passe une bonne soirée. Là, c'est moi qui le dis.
Ah bah,
racontez le fil conducteur du spectacle.
C'est, je commence la soirée, je sors d'un resto avec des amis. Mon plan est simple, c'est de rentrer chez moi. C'est-à-dire, voilà, il est minuit, on va rentrer chez soi, on va se faire une bonne verveine. Voilà.
Non, mais verveine. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas
mais
du vécu.
Mais je suis tellement décevant dans la vie, Philippe Bandel.
Non, mais vous faites pas des verveines.
Mais non, mais
même si Geffrotin.
Mais même Geffrotin se fait pas des verveines. Personne ici.
Pas encore. Même pas que c'était ringard, une verveine, c'est stylé. Ça se trouve, vous allez voir, dans 2020, là, c'est l'année de la verveine.
Non, c'est pas
ringard. Non, ça devient bobo, la verveine.
C'est daté.
Qu'est-ce que je fais ici ? C'est comme un thé, c'est comme de l'eau, c'est pareil, c'est un truc, quoi. Je me fais un thé. Imaginez, je me fais un thé.
D'accord.
Et je vais pour rentrer chez moi. Et là, j'ai un petit personnage dans ma tête qui s'appelle Okaou, qui me dit « Viens, on va en boîte. » Pourquoi ? Okaou. Et du coup, je me mets à aller en boîte sans aucune raison. Et à ce moment-là, cette soirée qui passe de catastrophe, en râteau, en lose, de lose en lose, va devenir une des meilleures soirées de ma vie parce qu'elle est teintée de souvenirs, de flashbacks de mon enfance et tout. Et elle termine excellemment bien. Et je crois que je m'y attendais pas. Peut-être que c'est le meilleur secret pour passer une des meilleures soirées de sa vie.
Ouais.
C'est de ne pas s'y attendre.
Exactement. Tout est vrai dans la soirée ou pas ?
Tout est vrai.
D'accord.
Bah, vous avez vu ce silence ?
Ce silence en disant long. Mais et vos amis sont les vrais amis ? C'est le vrai nom ?
Ah non, j'ai changé les noms. Je change toujours les noms.
Mais Rémi, il a vraiment fait ce qu'il a fait ?
Rémi, oui, c'est une vraie histoire.
Et il a vu le spectacle ou pas ?
Pas encore, mais il l'invitait.
Et ça va le faire marrer ?
Ah bah j'espère.
Et les gens dont vous parlez, ils existent vraiment ? Christophe Schneider, il existe vraiment ?
Oui, il a vraiment existé, ouais.
Non, parce qu'il donne. Normalement, on raconte son enfance, Mais lui, il dit vraiment Thierry, Geffrotin, Vanessa, Za, il donne prénom et nom.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
De la peste, du connard à l'école, de tout le monde.
Ouais, ouais, ouais. Après, j'ai réinventé un peu les noms pour éviter d'avoir des problèmes
voilà,
juridiques.
Ah, ouais, quand même.
Ah, bah voilà.
Bah, je peux pas me permettre.
Parce que sinon, on pouvait pas le jouer à Reims, ce spectacle.
C'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est clair.
Reims, c'est sa ville.
Non, je me permets toujours de protéger les gens dont je parle.
Vous racontez vos souvenirs d'enfance, tout est vrai.
Tout est vrai.
Votre famille immigrée iranienne, ça c'est vrai, on le sait. La parabole installée dans le jardin avec un escabeau, c'est vrai ou pas?
Et du scotch, ouais, ouais.
C'est pas possible.
Je vous jure.
Mais comment ça marche?
Mais comment je pourrais inventer une blague comme ça? Je me dirais pas genre, ce serait bien qu'il y ait une parabole montée sur un escabeau avec du scotch pour capter des chaînes.
Parce que c'est ça un spectacle. Un spectacle, ouais. C'est qu'on en rajoute pour être drôle.
Bah non, bah là, j'ai pas besoin. Hein.
Et vos parents, parce que j'adore cette image, je m'en fous, je spoil un truc.
Vas-y.
Ses parents, ils ont repas sa chambre. Et comme l'escabeau était utilisé par la parabole dans le jardin pour voir la télé, ils ont repeint sa chambre en sautant avec le pinceau dans les mains.
Non. Non, c'est marrant ça. Mais c'est vrai, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Ils ont pu à un moment donné ça. En fait, ce qu'on pouvait voir, c'est que le mur était très très haut. Du coup, ils n'ont pas pu aller plus haut.
Ouais.
Du coup, bah, ça s'est arrêté en plein milieu, quoi. Du coup, j'avais vraiment un double mur.
Et c'était pas la honte, comment
c'est
vous
pas
viviez
la honte.
Ça
en fait, c'est, bah, la vie c'est comme ça quand on est gamin, c'est comme ça.
Voilà. Il y a deux choses, quand on est gamin on a honte de rien, ouais. Et quand on est ado on a honte de tout. Ah, vous étiez à quel âge quand vos parents ont repeint la
j'étais
chambre?
J'étais complètement enfant, là. C'était avant mes 10 ans, donc vraiment, mais en fait on pose pas de questions quand on est
ah
gamin,
ouais,
c'est
oui.
Un peu l'introspection du spectacle, c'est le bah ouais, bah la vie c'est comme ça, quoi. Ton père il est comme ça, ta mère elle est comme ça, la vie c'est comme ça. Il y a que 10-20 ans plus tard où tu te dis mais c'était pas normal ça, j'aurais pas fait ça, moi j'aurais fait différemment. Et puis on apprend et puis on essaie de... C'est aussi le message du spectacle, c'est le fait de... Qu'est-ce qu'on prend de la transmission de ses parents? Est-ce qu'on prend les trucs négatifs, les trucs positifs? Viens, on fait le tri, on met les trucs négatifs de côté, on prend les trucs positifs.
Vous allez toujours en boîte de nuit sans boire d'alcool?
Non, j'y vais plus du tout là.
Ouais, ouais. Et vous buvez toujours pas d'alcool?
Non, bah non.
Alors, pour tous les gens qui boivent pas d'alcool, parce qu'il y en a, et vous le savez, il y a des gens à qui on fait la morale.
Mais c'est pas des gens, c'est constamment...
Et non, mais on leur dit « Ah, tu bois pas, t'es triste
ah, ».
Et Kian Kojandi...
On va s'amuser avec toi.
Ouais. Kian Kojandi a trouvé la phrase à dire. Mm. Et dites-la, je trouvais ça formidable.
Ah, si jamais vous êtes quelqu'un vous propose de l'alcool et vous dites « Non, je bois pas », dites pas de « Non, je bois pas ». Parce qu'après, ça va partir dans des débats du genre « Ah bon, pourquoi? T'as des problèmes? Qu'est-ce qui se passe ?» machin. Ou « On va pas s'amuser, t'es pas marrant ». Quelqu'un vous dit « Tu bois de l'alcool ?» Tu dis « Non, je suis bien ». Comme ça, la personne, elle se dit « Ah, lui, c'est se défoncer, ça fait plaisir ». Et là, vous êtes sûr que vous passez une bonne... Vous êtes socialement intègre, il n'y a pas de souci.
Alors, c'est très très bien écrit.
Merci.
Et il y a aussi de grands moments d'acteurs. Pardon pour ce compliment. Par exemple, je ne sais pas si vous pouvez le refaire, vous faites des dialogues au ralenti.
Ah, il est très difficile de parler. C'est très difficile de parler du spectacle sans le spoiler. On
ne
veut pas le spoiler, mais il y a un truc à un moment donné, c'est je suis dans une boîte de nuit, ça va être... Et à un moment donné, je me retourne et je vois un truc qui vraiment, à ce moment-là, va rentrer en considération dans ma vie. Ma mémoire va se mettre en marche à ce moment-là et tout passe en slow motion. Ça fait... Et là, ce que je vois, il faut venir voir le spectacle.
Quel plaisir.
Je fais des bons teasers sur Europe.
Et en fait, et une excellente boîte à rythme années 80 en beatbox qu'on vient d'entendre. Moi, ça me rappelle la boîte à rythme.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais vous rappelle les films X?
Bah ouais, grave.
Pourquoi bah ouais, grave? Non.
Bah, ça devrait vous rappeler les films X aussi.
Pas du tout, pas du tout.
Mais les films porno des années 80 étaient teintés d'une boîte à rythme comme ça. Bonjour, c'est le plan B. Et la musique se mettait à partir. C'est genre, il y avait une sorte de petit saxophone un peu stylé quand la personne arrivait dans le salon.
Sensualité.
C'était sensuel et à un moment donné, ça fait « Je crois qu'on a des choses à faire
oh ».
Et ça devenait tout de suite années 80.
Thierry Geffrotin qui n'avait rien dit depuis 5 minutes, s'est réveillé.
Vous parlez
ça
musique.
Vous parlez musique.
On parle musique.
Musique de chambre.
Ouais, joli.
Pas mal. Hein.
Et alors, pourquoi et comment cette grande obsession de Kian Kojandi pour l'amour, le sexe et les films avec des boîtes à rythme? Réponse juste après ça.
19h38, vous écoutez Philippe Vandel sur Europe 1.
Suite de la demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Vanessa Za, Nicolas Carreau et Thierry Geffrotin et notre invité Kian Kojandi. Ça s'appelle Une bonne soirée, c'est votre spectacle, c'est à l'Européen à Paris jusqu'au 29 juin. Nous parlions de votre obsession pour les filles, ce qui est normal quand on est ado.
Ouais, ouais, grave.
Enfin, oui,
on a l'obsession pour les autres, de manière, on peut complètement dégenrer le truc. Hein.
Et le sexe dans le spectacle,
ouais.
Qui n'est jamais vulgaire.
Ah bah tant mieux, c'est le but,
ouais.
Jamais, toujours...
Dans Bref, vous disiez les choses joliment, vous disiez « j'ai maté un documentaire sur la reproduction humaine ».
C'est vrai.
Ça vous parle, Thierry Geffrotin?
C'est joliment dit, en tout cas. C'est très évocateur.
On essaie toujours de rendre les choses le plus accessible possible, ouais, c'est ça, avec mon co-auteur Navo, on essaie toujours de faire ça, ouais.
Il y a des gens que ça choque ou pas ?
Non, ça choque pas, mais en fait, c'est très simple. J'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, le sexe ne peut pas arriver en... Dans Pulsion, j'en parlais minute 1, je me rappelle. On disait, venez, on s'en débarrasse.
Vous aviez serré vos pulsions, et la première, c'était le sexe. Comme ça, on était débarrassés.
On était débarrassés, comme ça, tout le monde. Mais dans la construction de ce nouveau spectacle, je vois que plus on en parle vers 45 minutes, une heure et quart, là, les gens commencent à se laisser aller. Et tout. Je vois vraiment une sorte de... Ça peut avoir. Je vois une barrière, je vois une forme de barrière mentale, pas sur tout le monde, bien sûr, mais je peux sentir des fois des réticences où les gens disent oh, il parle de sexe tout de suite, comme si le sexe était vulgaire, alors que pas du tout.
C'est surtout que ça se partage pas toujours. Bah. C'est que le sexe est une chose privée et que dans une salle de spectacle, on est en public. Donc quand les gens rigolent, on entend quand ils rigolent. À côté de moi, tous les gens se marraient. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'ils ne riaient pas au même moment.
Ah ouais.
Il y avait des hommes, des femmes qui ne riaient pas au même moment, et il y avait des moins de 36 ans et des plus de 36 ans qui ne riaient pas non plus au même moment. Et donc, comme s'il y avait plusieurs niveaux de lecture dans ce que vous faites et dans ce que vous écrivez.
Ah bah, je suis très touché, c'est un beau compliment.
Il y a des imitations aussi, c'est fait exprès.
Il y a qui ?
Il y a Claude François, Michel Jonas, je connaissais, vous faites très bien.
Mais... Il y a Mickey ? Il y a Mickey.
Ouais, il y a Mickey, bon ça, bon Mickey. Mais alors moi, je n'avais jamais entendu Aurel San.
Aurel San, ouais, non, c'est cool. Ça fait trop plaisir.
Il manque la casquette.
Ouais, j'ai pas la casquette. C'est
mais cassez pas tout, on est à la radio. J'ai pas
temps. C'est vrai que pour une imitation. Dans la voiture. Ouais. Il manque une casquette, clairement, dans cette imitation.
Comment vous travaillez ? J'ai lu dans un papier du Monde que vous aviez décidé d'appliquer le rapid speech à la comédie.
Ouais.
Ça me suis dit, c'est une bonne question parce que je ne sais pas ce qu'est le rapid speech.
Alors, le rapid speech, c'est en fait.
Personne ne sait ici.
Non. Alors, le rapid speech, c'est une.
Ça ne veut pas seulement dire parler vite.
Si, c'est ça. C'est le rapid speech, c'est le fait de. Ça a été même. Ce n'est pas une technique qui a été appliquée. On a appelé ça le rapid speech après coup. Il y a des réalisateurs que j'aime énormément, comme Jean-Pierre Jeunet, qui nous a fait l'honneur d'être là hier soir.
Je l'ai vu.
Ouais, c'était formidable. Le réalisateur d'Amélie Poulain. Il y a Cédric Clapiche qui le fait. Il y a Roger Avary dans Les Lois de l'Attraction, qui sont des films qui m'ont énormément inspiré, pour beaucoup de choses. Ils pratiquent le rapid speech, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une séquence qui se met à accélérer comme ça, où le mec se met à parler très rapidement comme ça, il parle de fait ça, et ça, 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 ça. Et ça permet de faire plein de choses. Le truc dans le cinéma, c'est que ça a beaucoup été mis de manière très stylée, très calibrée, il se passe ci, il se passe ça et tout. Nous, on avait appliqué le rapid speech dans Bref, mais on l'a mis avec de la comédie. C'est-à-dire qu'on a tiré les actes de comédie. Genre, je l'ai regardé, ou il m'a dit oui, je lui ai dit non. En fait, ça n'existait pas vraiment, ce truc-là, ce truc d'accélérer un peu les dialogues. Enfin, il y a plein de trucs, comme les gens pourront... Si jamais vous connaissez pas Bref, c'est disponible sur YouTube pour regarder. Mais justement, il y a ça qu'on a voulu amener. Et j'en ai mis un peu dans mon spectacle aussi, du rapid speech. À un moment donné, il y a toute une phase où je réalise que je suis vraiment con. À ce moment-là, j'ai 20 ans et je suis con. C'est pas parce que j'ai 20 ans, mais c'est juste... Je suis con, quoi, parce que je fais un truc qui est vraiment pas cool. Et je décide de dire, il faut que je sois moins con. Et du coup, je commence à réaliser plein de trucs importants dans ma vie. Et c'est là que commence la séquence de rapid speech. Ouais.
Ken Gojandi avec nous. Je me tourne vers Thierry Giffretin qui se lève, qui dans un état que je ne connaissais pas.
Voilà.
Vous allez nous parler. Je suis très content.
Il se révèle
de BD. Ça me fait un grand plaisir que vous parliez de BD dans cette demi-heure culturelle. Vous allez nous parler de ceux qui élèvent la BD au rang de l'art. C'est ainsi que vous l'avez écrit. Ouais. Jean-Pierre Gibras, qui a fêté ses 65 ans cette semaine. Ça fait plus de 2 fois 36 ans. Et c'est lui qui nous fait, avec un superbe album, un plaisir, dans lequel on trouve des reproductions des planches et une longue interview racontée.
Oui, c'est magnifique. L'album a pour titre « L'hiver en été » et il est édité chez Daniel Magan. C'est un artbook, comme on dit dans le jargon, dans le métier, c'est-à-dire un livre grand format, 175 pages. Et il faut bien ça pour apprécier le travail de Jean-Pierre Gibras et pour évoquer son travail depuis 20 ans. Ses planches, ses dessins, c'est des œuvres d'art. C'est mieux qu'une photo, plus fort qu'un cliché. Il y a une poésie, une force, les grandes planches notamment, les fresques. Alors je pense notamment, alors malheureusement les auditeurs ne voient pas, mais je vous renvoie à cet album, il faut l'acheter.
Oui.
Notamment le bivouac qui met en scène le quotidien pendant la guerre.
Ouais, je vois un mec qui a une casquette.
Voilà, ou le quai de gare, où on voit un quai de gare bondé avec un train sur le départ. Alors, ce qui est formidable, c'est même fascinant. On devine, en regardant attentivement dans ces fresques, chaque personnage, des histoires, des destins qu'on imagine soi-même. On se fait l'histoire en regardant le dessin et le personnage. Jean-Pierre Gibras dit qu'on ne juge pas un dessin à son degré de fidélité. Pourtant, je dois vous dire, notamment qu'il se dégage une émotion, une sensualité des jeunes femmes qu'il dessine avec amour, ses héroïnes Cécile, Jeanne, Juliette. À propos de style, de la force des dessins, Jean-Pierre Gibrin raconte dans ce livre le commentaire d'un lecteur, un jour qui faisait une dédicace, et qui lui a fait un immense compliment. Il lui a dit « Écoutez, on a envie d'entrer dans vos dessins, même si la période évoquée est souvent tourmentée. »
Alors justement, les histoires, les thèmes choisis par Gibrin.
Eh bien, les thèmes, c'est la guerre d'Espagne, le Front populaire, la France occupée, donc les années 40 en l'occurrence, que l'on retrouve dans ses séries, Le sursis, Le vol du corbeau, Mathéo. Alors, il fait des séries, Jean-Pierre Gibrin, mais il fait aussi des dessins uniques. C'est-à-dire qu'on on se retrouve plongé, je vous le disais, alors quand c'est les grandes fresques, on se retrouve plongé dans une histoire qu'on imagine, vous avez des dessins plus petits, et là, c'est la même chose. Alors, c'est en rapport avec ces séries, évidemment. Alors, pourquoi ce choix de la première moitié du XXe siècle? Eh bien, écoutez la réponse vraiment personnelle de Jean-Pierre Gibrin.
Moi, mes grands-parents étaient militants dans les années 30, militants à gauche, même au Parti communiste. À l'époque où, effectivement, ils pensaient qu'on était en train de construire le paradis en Union soviétique. Il faut remettre ça dans son contexte. Hein. Et les pauvres, ils y croyaient, quoi. Alors évidemment, je n'ai pas pu connaître 36 puisque je n'étais pas né. Mais tout ce que je peux voir de 36, les reportages, sont d'une émotion incroyable parce que, au-delà des revendications... j'allais dire bassement matériel, de remettre un peu les pendules à l'heure sur le plan du partage. Il y avait une espérance de changer la vie dans une société bien plus fraternelle. Je me rappelle d'un reportage magnifique que j'avais vu sur cette période-là, qui était très très bien écrit, et le speaker disait, donc je ne sais pas si c'est lui qui avait écrit cette phrase, il disait « c'est la période où les gens ont cru qu'ils allaient s'aimer ».
Voilà, Jean-Pierre Gibrin qui se livre dans ce artbook avec humour, avec tendresse, avec poésie. Gibrin, l'hiver en été, édité chez Daniel Maguen. Superbe album, hein, très richement illustré avec une interview passionnante menée par Rebecca Manzoni. 175 pages, 39 euros. C'est un très beau cadeau à se faire ou à faire, évidemment.
Vous êtes fan de BD, Ken Kojandi ?
Ouais, j'adore ça.
À la sortie du spectacle, on peut acheter la BD du spectacle, mais du spectacle précédent,
ouais,
qui était Pulsion.
Ouais.
Pourquoi ce choix? Et puis raconter comment est la BD, parce qu'elle est quand même, elle ressemble pas à une BD.
Eh ben, je voulais faire en sorte qu'il y ait une sorte d'objet autour de ce spectacle. Le DVD, j'y croyais pas trop, je vous avoue sincèrement. Je me suis dit que c'était pas forcément un média d'avenir. Je me suis dit, on va mettre le spectacle intégralement sur YouTube, et comme ça les gens pourront le regarder. C'est vrai que c'est un truc d'avenir pour le coup, ouais, le livre. C'est pour le coup, c'est vraiment un média d'avenir.
Et alors, ce qui est incroyable dans cette BD, c'est que parfois c'est des planches de BD avec des cases, et parfois c'est juste du texte, et parfois c'est juste un énorme mot sur une double page.
C'est ça, ouais.
Et ça fait un effet dingue.
Je voulais retranscrire le rythme du spectacle. Je voulais pas que ce soit juste un texte avec des images. Je voulais vraiment qu'il y ait une sorte de rythme de lecture. La comédie, c'est un rythme. C'est pas que poser des mots et du genre tu lis et c'est drôle.
Ouais.
Justement, il faut. Plus tu mets un rythme, meilleur c'est, et c'est ce qu'on a voulu faire. On a travaillé énormément avec une graphiste, et Boulet d'ailleurs, qui est un illustrateur que j'adore, qui est super talentueux, qui arrive à me rendre très marrant.
Il arrive, vous l'êtes déjà quand même. Même il arrive, peu, hein, franchement, quand même, qui aime que j'en ai, il est drôle. C'est chez Albin Michel, ce
oui,
livre,
ouais, ouais,
et
ouais.
Moi je vais faire comme dans votre livre, je vais mettre trois mots. À tout de suite.
19h48, on vous retrouve, Philippe Vandel, en compagnie toujours de vos chroniqueurs et de votre invité.
Suite et fin de cette demi-heure culturelle du 18-20 avec Ken Kojandi. Rebonsoir pour ceux qui sont
bonsoir.
Là en voiture, qui nous rejoignent. Rebonsoir Vanessa Zahar.
Rebonsoir.
Thierry Gervotin, rebonsoir.
Rebonsoir Philippe.
Je me tourne vers vous. Cette semaine, Nicolas Carreau, vous nous parlez des vampires et de Dracula. En particulier, le fameux roman de Bram Stoker est réédité à La Pléiade. Alors, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas très très bien l'édition, La Pléiade, c'est en papier Bible, le plus beau livre du luxe et tous éditeurs confondus, tous auteurs confondus, c'est là où on trouve de Maupassant à Victor Hugo, en passant par Homère.
Les génies.
Et les génies. Et Dracula, c'est du génie ?
Bah oui, ça s'appelle Dracula et autres écrits vampiriques. Et parmi ces autres écrits, il y a Le Vampire de John Polidori. C'est l'une des toutes premières histoires de vampires en littérature publiée en 1819. L'histoire est assez belle en plus. Le poète britannique Lord Byron avait loué une maison, une villa sur les bords du lac Léman à l'époque. Il y avait des invités. Et un soir, il leur demande d'écrire chacun une histoire de revenant. Polidori a écrit l'histoire de Lord Ruthven, un immortel, un non-mort qui se nourrit du sang de ses victimes. Et une certaine Mary Shelley était là aussi. C'est l'auteur de
Frankenstein.
Et ben voilà.
Je connais cette histoire et c'était l'hiver le plus froid, l'été le plus froid qu'il y ait jamais eu en Europe à cause d'un volcan qui avait explosé. Mais alors, Dracula ?
Dracula, c'est bien plus tard, 1897, et c'est devenu un mythe.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Ça, c'est le film. Ah, le petit rire sardonique, c'est le vôtre, Nicolas Caro. C'est le film de Coppola, ça.
Avec Gary Oldman dans le rôle du comte Dracula et Jonathan Harker, joué par Keanu Reeves. Chef-d'œuvre très fidèle dans l'esprit au roman, d'ailleurs. L'histoire est la même. Vous la connaissez, mais je vous la rappelle. Le jeune clerc de notaire, Jonathan Harker, est envoyé en Transylvanie pour rencontrer le comte. Mais il s'aperçoit vite qu'il y a quelque chose d'un peu étrange dans le château, surtout lorsqu'il voit son hôte se déplacer comme un lézard sur les murs.
Ah oui.
C'est vrai que ça étonne. Jonathan va finalement réussir à regagner l'Angleterre, mais le comte ne tardera pas à le rejoindre. Il va donc falloir s'en occuper et lui régler son compte. Et pour en finir avec un vampire, il n'y a pas 36 solutions. Petit rappel juste au cas où, il faut au choix lui planter un pieu dans le cœur pendant son sommeil ou le placer à la lumière du jour. Ça, ils n'aiment pas du tout, du tout.
Et alors, à ma connaissance, Bram Stoker s'est inspiré d'un personnage réel.
Absolument. Vlad Tepes, un prince roumain au XIVe siècle, connu pour être extrêmement cruel, et la légende veut même qu'il ait pris l'habitude de boire de temps à autre un verre du sang de ses ennemis. Surtout, Bram Stoker s'est inspiré des récits vampiriques d'Europe de l'Est. On y croyait à l'époque, et quand on avait un doute, on pouvait déterrer un cadavre pour lui planter un pieu dans le cœur, histoire d'être sûr. Dracula, c'est un mythe, tout le monde connaît, sans forcément avoir lu le roman. C'est l'occasion.
Et c'est donc dans la Pléiade et son fameux papier Bible, Dracula et autres récits vampiriques. Merci beaucoup Nicolas Caro.
Merci Philippe.
Vous êtes un grand lecteur, Kian Kojandi.
Je lis pas mal de BD, ouais.
Et à part la BD
Les BD, ouais.
Vanessa Zah, truc de dingue, vous allez nous parler de voyage. Et vous allez prendre votre planche de surf sous le bras et filer à Biarritz à l'occasion d'une compétition pas comme les autres.
Oui, une compétition à laquelle les Basques sont très attachés, ils en sont super fiers. Et à quoi, c'est la plus ancienne compétition de surf d'Europe. C'est la Biarritz Quicksilver Maider Arostegui. Et elle a lieu chaque année, chaque week-end de Pâques sur la grande plage de Biarritz depuis 35 ans. Et donc là, elle vous attend jusqu'à lundi soir. Alors vous allez me dire, moi j'en ai jamais entendu parler. Eh bien dommage, car il y a un groupe mondialement connu qui lui en avait entendu parler au point de vouloir venir y jouer en 2001.
Au revoir.
Mythique.
Bah évidemment que c'est mythique.
Ils sont venus et ils essayent d'avoir les Red Hot Chili Peppers pour l'année prochaine aussi. Ils sont des fans de surf. Oui, oui, non, mais en fait, c'est une compétition qui attire évidemment aussi les plus grands surfeurs, les plus grandes légendes, les Laird Hamilton, les Mark Cunningham, si vous vous y connaissez. Cette année, l'invité d'honneur, c'est un Américain, un Hawaïen, un phénomène mondial.
Ouais.
Bon, il est jeune, très jeune, Philippe, vous pourriez être son père. Il a 30 ans de moins que vous.
Ouais.
Et alors, lui, il fait du surf, du stand-up et du foil. Il s'appelle Kay Lenny. Arrive à falloir mettre à la page les garçons, parce que vous êtes quand même au courant que le surf devient une discipline quand même au JO l'année prochaine.
Et la breakdance.
Et la breakdance aussi.
C'est vrai.
Donc,
ouais, c'est génial, vrai. C'est une super nouvelle.
Le stand-up peut y croire.
Waouh, pas mal. Stand-up, stand-up paddle.
Stylé. Ouais, ouais,
et vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Vous seriez un très bon surfeur. Vous avez un petit côté à la Kelly Slater sans vos cheveux. Pas mal comme compliment.
Bon, voilà. Allez.
Et donc, on file à Biarritz, évidemment, pour se mettre dans l'eau, pour voir les compètes, les démonstrations. Il y a même quand même des enfants de 12 ans qui sont en compétition. Hein.
Bon, et comment Biarritz est devenue la Mecque du surf? En fait, je me doute, c'est parce que les vagues sont super.
Oui, alors, bravo,
hein,
évidemment.
C'est mieux que sur le lac d'Aigbelette.
Mais grâce à qui, surtout, est-ce que vous savez à qui on doit la venue du surf en France? À un Américain, à un acteur.
Ah bon?
Peter Wirtel, est-ce que ça vous parle?
C'était... Mais malheureusement pas encore.
Mais c'était le mari de Deborah Kerr et on est en 57. Il est en tournage dans le coin pour le tournage du film Le Soleil se lève aussi. C'est une adaptation du roman d'Hemingway. Hemingway est là aussi. Et alors, en fait, quand il voit les vagues de la côte, il se fait envoyer sur le champ, donc c'est planche californienne. Il faut quand même imaginer la tête des biarros qui voit pour la première fois un homme glisser debout sur l'eau. Et c'est lui qui lance la mode du surf. Les célèbres tontons surfeurs après, évidemment, vont prendre la vague jusqu'à aujourd'hui. Il y a un énorme engouement quand même autour du surf. C'est très à la mode, ça se fait énormément en famille. Alors justement, je vous ai concocté quelques petites adresses sur mesure pour vous mettre dans le bain. Vous en avez jamais fait?
Si, j'en ai déjà fait. Ouais. C'est très très dur, mais la sensation est formidable.
Et la question qui vous occupe à chaque fois, est-ce que c'est bien pour les filles d'être surfeurs?
En tout cas, c'est bon pour les épaules, parce que c'est beaucoup de travail, de musculation. Et peut-être qu'ensuite, avoir des muscles, c'est bien pour les filles. Peut-être après, c'est une autre théorie.
Vanessa, vos bonnes adresses.
Bon, pour commencer par tester, avoir des sensations, on commence par la cité de l'océan et du surf. Il y a une attraction qui s'appelle le Sensation Surf 5D. Donc vous êtes debout sur une planche avec un masque de réalité virtuelle à 360 degrés. Il y a du vent, des embruns et de la musique. Si vous avez apprécié les sensations, on passe à la pratique avec un stage de surf en immersion avec une pro sur Biarritz. C'est la championne de France 2009. Elle s'appelle Amandine Sanchez. Elle tient la Shining Surf School. Et puis après, j'ai une surf house à Bidart qui s'appelle à l'ail. Et alors là, surf et yoga, potager bio. Il y a même un atelier de shape. Pour ceux que ça intéresse, je crois, on shape, vous savez ce que ça veut dire?
Mais évidemment, moi j'ai qu'une envie, c'est de shaper.
C'est de shaper. Bon, bah, c'est...
Non, c'est quoi en vrai?
En fait, vous donnez la forme en fait, à votre surf.
D'accord.
Et puis, pour ceux qui ne veulent pas se lancer sur l'eau, ils peuvent aussi avoir un surf au mur de chez eux. Un surf designé par
ça,
des artistes avec Aiwa Luhu, histoire de s'évader un peu au mur de chez soi.
Ça, je trouve ça formidable, moi. Vous savez, ces gens qui se regroupent en communauté, qui font du sport, c'est-à-dire qui font de l'effort vraiment,
tout
ils mangent bien.
Pas.
Non, mais ils mangent bien, ils reviennent à cet état justement, ils reviennent aux origines, quoi. Du viens, on fait des trucs, on bouge son corps et on mange correctement et on se réunit. Et c'est vraiment beaucoup d'amour dans ces moments-là, dans ces communautés-là, c'est super. Là.
Vous savez quoi? Viens, on va faire un truc. On va passer une bonne soirée. C'est avec Kian Kojandi, c'est à l'Européen à Paris jusqu'au 29 juin. Merci d'avoir été avec nous
mais merci
dans cette demi-heure culture. Merci Thierry, merci Nicolas, merci Vanessa.